Voici à présent la seconde partie de notre journal. Hier lundi 20 novembre, le monde a commémoré la journée internationale des droits de l'enfant. Le thème retenu cette année est « Pour chaque enfant, des rêves ». Jean-Pierre Elali Coco s'est intéressé aux rêves de quelques enfants défavorisés dans la capitale, ainsi que sur les moyens de traduire ces rêves en réalité. Suivez son dossier.
J'ai droit à un nom, à une nationalité et à une identité. J'ai droit d'être protégé, d'être traité avec humanité.
C'est Bigoda Sadrak, 13 ans, récital des droits de l'enfant quasiment par cœur. Enfant de la rue, encadré au centre de rééducation des enfants des Bandal. Son rêve, devenir avocat. Comment? Il ne le sait pas. Par contre, Joe Mali, 20 ans, autre enfant de la rue du même centre, n'a jamais été au banc de l'école. Il a toutefois un rêve.
Je veux devenir footballeur ou bien mécanicien.
Cependant, les rêves des enfants défavorisés peinent à se réaliser. La réalité est plus criante à quelques kilomètres de là, sur la route des poids lourds, dans la commune de Limété. Ici, se dressent des taudis contre la longue muraille qui sépare la route du chemin de fer. Près de 400 ménages y vivent dans des conditions inhumaines. C'est ici que vit aussi Sila, une fille de 13 ans. Son rêve.
Je veux devenir ingénieur.
Ingénieur. Pour devenir ingénieur, qu'est-ce qu'il faut faire?
Je n'ai pas de moyens pour étudier. Je suis seulement avec maman, papa et maman.
Basile Lompati Adam, lui, a 20 ans, l'âge de la maturité. Lui aussi a un rêve, mais...
De devenir un avocat.
Un avocat?
Oui.
Et tu sais ce qu'on doit faire pour devenir un avocat?
Bon, moi je ne connais pas parce qu'il n'y a pas de possibilité d'étudier. Bon, qu'est-ce que moi je dois faire?
Et pourquoi vous êtes ici?
Je suis ici, j'ai venu à Kinshasa, j'ai quitté d'abord notre village pour chercher ici. Mais ici, nous avons trouvé du mal.
Pour l'artiste et musicien Jean Goubal, il faut commencer par les commencements.
Aller directement parler des rêves des enfants, c'est avoir escamoté un rêve principal qui est celui de la RDC. La RDC, dit-on, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo. Mais ce rêve-là du Congo doit commencer par se réaliser d'abord, parce que les enfants rêvent trop petits. Pourquoi? Parce que les leaders ne font pas rêver grand. Au Congo, les gens rêvent trop petits.
Des rêves, les enfants défavorisés, comme tous les enfants les ont. Mais les goulots d'étranglement demeurent, la possibilité pour les matérialiser. Et à travers la RDC, ces cas sont légion.
Revue de presse.
Bonjour Blaise Chindani.
Bonjour Jocelyne Moussao. La majorité des journaux parus ce matin à Kinshasa se sont intéressés aux préparatifs du prochain congrès de l'UDPS. Congrès de l'UDPS, Tshibala Lokseke annonce les couleurs, c'est ce qu'on peut lire à la une du Forum des As. Il l'avait annoncé le mercredi 26 juillet 2017 à l'occasion de l'installation du comité préparatoire du conclave du parti, fait savoir le journal. Ils sont sur le point de tenir parole, eux. Poursuit les confrères, ce sont les membres de la commission préparatoire du conclave de l'UDPS. Supervisée par le docteur Tarsis Lokseke, cette commission annonce la tenue du conclave pour ces 29 et 30 novembre. Ce pré-congrès sera suivi des assises proprement dites, lesquelles se dérouleront du 4 au 6 décembre. Ainsi, est en passe de s'accomplir l'appel lancé fin juillet dernier par Bruno Tshibala pour un congrès de réunification et de refondation précédé par un conclave de l'unité et de la réconciliation du parti, annonce les tabloïdes. Abordant les mêmes sujets, la prospérité écrit à manchette, après le conclave, le congrès confirmé, UDPS, Bruno Tshibala fonce. 14 membres font désormais partie d'une commission préparatoire placée sous la supervision du docteur Tarsis Lokseke et la coordination de messieurs François-Xavier Nkongolo, tous issus de la première ceinture d'Étienne Tshisekedi, du temps qu'il présidait encore de plein pied l'Union pour la démocratie et le progrès social, fait savoir la consoeur. Dans un autre chapitre, Forum des As s'est intéressé au premier derby quinois joué dans la soirée et écrit « DSMPV Club joué en soirée, Paris gagné pour le comité Bosco Mweu de la Lina Foot. » Pour le journal, le tout premier match de l'histoire du championnat de la Ligue nationale de football Lina Foot, joué en soirée, a bel et bien eu lieu hier lundi 20 novembre au Stade des Martyrs. Sans incident, insistent les confrères. C'est sous les projecteurs du Stade des Martyrs que s'est déroulé le premier derby quinois, les deux clubs rivaux de Kinshasa. Une première en championnat national. Et comme toujours, pense le journal, on s'attendait à des agitations de la part des supporters des deux formations rivales de la capitale congolaise, les deux clubs étant parmi les plus populaires du pays. La confrontation entre ces ces deux clubs a toujours été un réel casse-tête, non seulement pour les organisateurs, mais également pour les forces de l'ordre, insistent les confrères. Même lorsque les matchs étaient dans la journée, contre toute attente, note les tabloïdes, le premier derby de Kinshasa de cette 23e édition de la Division 1 congolaise entre DCMP et V Club a eu une fin heureuse.
L'invité.
La Fondation Mo Ibrahim a publié hier lundi son indice 2017 de la gouvernance en Afrique. Dans ses classements, la RDC est 48e sur 54 pays, évaluée avec un total de 35 points sur 100. Madame Ba Diallo, porte-parole de la Fondation Mo Ibrahim, est l'invitée de Radio Capi ce matin. Elle répond aux questions de Daniel Tambizoni.
Madame Ba Diallo, bonjour.
Bonjour.
La Fondation Mo Ibrahim vient de publier sa 11e édition de l'indice de gouvernance en Afrique. Comment nous pouvons comprendre le concept de gouvernance en quelques mots?
La gouvernance désigne l'ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, d'information et de surveillance qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle d'un État. Donc, l'indice Mo Ibrahim permet de nous donner un tableau complet qui nous permet d'informer et responsabiliser les citoyens du continent, ainsi que de soutenir les gouvernements, les parlements et la société civile dans leurs efforts pour évaluer les progrès de la gouvernance en Afrique.
Et pour l'indice 2017, qui va de 2006 à 2016, vous avez considéré 100 indicateurs. Voulez-vous nous dire de manière générale comment se présente la tendance de la gouvernance en Afrique?
La tendance reste positive pour la gouvernance sur le continent Afrique, avec toutefois des signaux d'alerte. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont vraiment fait de grands progrès, mais il y a des pays qui ont ralenti pendant que d'autres ont décliné. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a des signaux d'alerte.
Dans le classement, la RDC est 48e sur 54 pays africains. Comment vous expliquez cette position? Est-ce que c'est un bon score? Est-ce que ce n'est pas un bon score?
Regardez, j'ai le tableau devant moi maintenant que vous me posez la question. Je peux dire que la RDC a fait des progrès, mais peut mieux faire. Voilà mon analyse à moi.
Donc, elle a fait des progrès, mais elle peut
dans
encore...
certains domaines, mais il y a des domaines dans lesquels où il a régressé.
La République démocratique du Congo a progressé au total en matière de gouvernance globale au cours de la dernière décennie. Ça, c'est l'indice qui le dit, avec une accélération de la progression sur 5 dernières années, avec une tendance moyenne qui va dans le 0,23 points.
Oui.
Vous ne craignez pas de vous contredire par des Congolais qui pensent que la RDC ne fait pas de progrès vu sa situation sociale aujourd'hui?
Attention, n'oubliez pas que 2017 ne fait pas partie d'une analyse de l'indice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne commente pas. 2017 ne fait pas partie. Bon, jusqu'en 2016, voilà le tableau correct. Peut-être que l'année prochaine, on aura d'autres figures.
L'indice dit la catégorie développement humain reste celle qui réalise à la fois le meilleur score et le progrès le plus marqué sur la décennie grâce au progrès des composantes protection sociale, enseignement et santé. Dans le même paragraphe, l'indice dit le déclin accéléré de l'indicateur service éducatif sur les 5 dernières années reflète la sensible détérioration de l'opinion des citoyens africains sur la manière dont les gouvernants répondent aux besoins en la matière. Comment expliquez-vous cela?
Chaque citoyen, normalement, devrait demander des comptes, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes satisfait des services? Est-ce que le système éducatif répond à vos besoins? Sinon, à ce moment-là, vous le dites. Et c'est ce qui s'est passé. On a posé les questions à des citoyens et la grande majorité... ils ont répondu, nous ne sommes pas satisfaits. Parce que normalement, on doit répondre aux besoins de chaque citoyen, aux besoins de chaque apprenant, aux besoins des, non seulement des élèves, mais aussi des parents d'élèves, des enseignants. Est-ce que cela se fait?
Madame Ba, quelle influence une telle publication, celle de Mo Ibrahim, peut avoir sur les gouvernants africains de manière générale? Vous pensez qu'une telle publication peut les aider à améliorer la gouvernance?
Tout à fait. Ils sont redevables et ils le savent. Je sais que chaque année, les responsables politiques attendent l'indice, de même que la société civile, ils l'attendent pour voir là où ils ont fait des progrès, là où il faut qu'ils améliorent, Et là où il faut vraiment carrément corriger le tir. Je me souviens, il y a 2 ans, j'avais donné une interview, c'était à France Inter. Mon pays, moi je suis de la Guinée. Et le porte-parole du gouvernement, tout de suite, a fait une interview à la télévision pour dire « L'indice Mo Ibrahim dit que la Guinée a fait des progrès. » Et automatiquement, un de l'opposition a dit « Oui, on a fait des progrès, mais on a régressé dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. » Cela explique quoi? Que les citoyens, aussi bien lambda, comme on dit, que les responsables politiques, ils regardent l'indice. Et à ce moment-là, ils peuvent demander des comptes. Et c'est là où il est important que les médias diffusent l'indice et expliquent exactement ce que l'indice veut dire. Et c'est là où j'attends, moi, les universitaires, que eux, ils prennent cet indice et qu'ils se l'approprient.
Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Kapi.
Oui, merci infiniment.
Okapi Sport. Bonjour Enoch Matondo.
Bonjour Jocelyne Moussa Opondé. Bonjour à tous les amis sportifs en Ligue Nationale de Football. Le DSMP s'est imposé hier devant la Sevec Club 1-0. Une réalisation de Kazadi Kasengou à la 51e minute. Il était servi par Chibambi Dago. On écoute le coach Florent Ibengue Kwangé de la Sevec Club qui revient sur cette rencontre.
On a manqué de vigilance là-dessus. Justement, quand vous avez une équipe qui joue comme ça, vous avez vu sur l'action, il a manqué un pressing sur le porteur du ballon, Chibanga. Et puis, Gonda qui n'a pas maîtrisé la profondeur sur Kazadi. Il a manqué cette attention-là. Attention coupable parce que c'est pas à ce moment-là qu'on est fatigué. Quand on revient du vestiaire, je vis juste d'être concentré. Donc, il a manqué un peu de concentration. Comme a dit le coach Otis, quand ils sont revenus, ils étaient en 4-4-2. Donc, on l'a vu tout de suite. C'est pas tellement ça qui nous a gênés. Ce qui nous a gênés, c'est juste cette absence de concentration pour pouvoir sortir sur le porteur du ballon pour empêcher justement le pressing et puis maîtriser la profondeur. Ça fait des matchs de haut niveau, ça se joue sur des petits détails. Chacun joue sa partition. Cette équipe du Dering n'a pas beaucoup changé. Quand vous regardez par rapport à l'an dernier, je crois qu'il y avait 2 joueurs qui étaient différents de l'équipe sur le terrain. Donc ils avaient une belle cohésion, mais on a su, on voulait imposer notre jeu qui est fait de conservation de ballon et de changement de rythme. Et bon, malheureusement, il nous manque un petit peu ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque qui doit être un peu plus fluide.
Une joie en tout cas dans le milieu du Daring Club Motema Pemba Sport après cette victoire. On écoute Bontomboula Berto, il est l'un des administrateurs du DSMP.
C'est encourageant, même si il n'y avait pas la manière, en toute sincérité, mais j'avoue quand même que c'est un bon début. Moi, j'ai toujours dit que nous avons un bon effectif. Il appartient au staff technique de faire jouer l'effectif, de pouvoir jouer le match tactiquement, de placer les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, aux entraînements, apprécier quel est le joueur qui donne le plus pour le moment et aligner celui-là. Par exemple, aujourd'hui, on a senti que Mbidi n'était pas au point, alors qu'il y avait d'autres joueurs qui pouvaient jouer ce rôle.
Et monsieur l'administrateur, nous avons senti aussi que Kazadi et Dago manquaient un Ricky Toulenge là pour faire jouer cette partie offensive là de l'équipe.
Effectivement, Ricky Toulenge n'est pas là, mais s'il était là, ce serait encore mieux. Mais le problème pour Kazadi, c'est que Kazadi, c'est un joueur physique. Comme présentement, nous acquisons une faiblesse physique, l'équipe est en train de monter. Et je crois qu'à un certain moment, il sera au point, vous allez voir Kazadi va revenir au haut niveau.
Voilà, juste le monsieur Opondi.
Merci. Merci, Enoch Matondo, pour toutes ces nouvelles sportives. On va terminer avec le cours de change. Un dollar américain s'achète aujourd'hui à 1548 francs congolais et se vend à 1611 francs congolais, le dollar américain. Et c'est le taux indicatif de la Banque centrale du Congo. Et c'est par ici que nous terminons cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis.